France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
Faut-il lever l'anonymat des dons de sperme ou maintenir le secret? C'est un débat récurrent. Il est relancé par une tribune publiée dans le journal Le Monde. 100 personnes nées d'une insémination avec donneur ont signé ce texte. Un appel soutenu également par 150 personnalités, parmi lesquelles l'écrivaine Annie Ernaux, l'historien Pierre-Rosan Vallon et les anciennes ministres Roselyne Bachelot et Dominique Bertinotti. Ils veulent que la loi change pour permettre à tous ceux qui le souhaitent de connaître l'identité de leur père biologique. Bonjour Clément Roussial.
Bonjour.
Vous êtes le vice-président de PM Anonyme, c'est l'une des deux associations à l'origine de cet appel. Pourquoi est-ce si important pour vous de sortir du secret ?
Alors c'est une question en effet récurrente. Je pense qu'il y a une première chose à dire, c'est qu'est-ce que je cherche en fait ? Je ne cherche pas un père. Moi j'ai une famille, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont donné énormément de choses, qui m'ont aimé, mais ça ne suffit pas en fait. Et c'est ça en fait le fond de la problématique, c'est que pour reconstruire mon histoire, pour me connaître, eh bien j'ai besoin de rencontrer ou de connaître ce géniteur, ou d'en savoir plus. Il se pose aussi également des informations médicales, connaître ses antécédents médicaux. Il se pose aussi des questions eh bien, de ressemblance physique. Moi c'est des problématiques par exemple auxquelles je suis souvent ramené quand je vais balader dans la rue, quand je vais discuter avec des amis, c'est des problématiques auxquelles je suis souvent ramené. Mais
c'est quoi ? C'est-à-dire qu'on vous dit « vous ne ressemblez pas à votre père » ?
Ça va plus loin que ça. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je peux me balader dans la rue et retrouver quelqu'un qui va me ressembler. Et donc, ça va être des questions qui vont être récurrentes. En fait, c'est quelque chose qui vous prend de la place dans votre esprit. Vous y êtes constamment ramené quand vous allez chez le médecin. Ou par exemple, lorsque j'ai rencontré ma femme, je lui ai demandé eh bien, si son père avait eu recours à un test ADN, tout simplement, eh bien pour éviter de sortir avec ma demi-sœur génétique.
Ah oui, ça va jusque-là.
Eh oui.
D'accord. Au moment de la création des premières banques de sperme, c'était quoi, dans les années 70, hein, à peu près ?
C'est ça,
exactement. Comment est-ce qu'on a justifié cette règle de l'anonymat ? Le point de départ, c'était quoi ?
Alors en fait, au niveau de la loi, c'est intervenu en 94. Pourquoi ? Le législateur avait dans l'idée de calquer le don de sperme sur eh bien, le don d'organes et le don de sang en général. Donc, ils se sont dit, déjà que l'infertilité est quelque chose de compliqué aussi à gérer, eh bien on va mettre en place ce système d'anonymat eh bien pour cacher l'existence du donneur, cacher qu'il existe. Et on est même allé jusqu'à l'appareillement, ça veut dire eh bien prendre un donneur qui ressemble physiquement au père. Nous, ce qu'on dit actuellement, c'est que, évidemment, ça a été, le début a été réfléchi et je pense que c'était dans une bonne intention. Nous, on est un retour d'expérience en fait de cette situation. Moi, j'ai 30 ans, il y en a qui ont 40 ans. Et on dit, écoutez, la technique de la PMA a permis de me créer, donc on ne rejette certainement pas ces techniques. On dit, on a des axes d'amélioration qui sont notamment eh bien, celles de l'accès aux origines. De permettre à l'âge de 18 ans de l'enfant eh bien, de connaître tout simplement l'identité du donneur.
Mais seulement si la personne le réclame.
Alors, exactement. Nous, ce qu'on imagine, nous, nos propositions concrètes, eh bien, c'est d'avoir un organisme ad hoc. On peut, par exemple, penser à celui qui a été créé pour l'aîné sous X, qui s'appelle le CNAOP, la Commission Nationale d'Accès aux Origines, et qui permettrait, eh bien, lorsque l'enfant ferait la demande, devenu adulte, eh bien, de contacter le donneur et puis de le rencontrer, par exemple, à travers de cet organisme. Pour ceux comme moi, qui seraient nés avant la loi, nous, ce qu'on imagine, eh bien, ça serait de mettre en place un registre, en fait, un registre sur la base du volontariat, j'insiste. Tout simplement, en fait, les donneurs seraient contactés, et puis s'ils souhaitent lever leur anonymat, eh bien, des rencontres seraient possibles.
Et ce serait la même chose, par exemple, pour les dons d'ovocytes ?
Tout à fait. Le don de gamètes en général, tout à
d'accord,
fait.
D'accord, c'est fille et garçon.
Exactement.
Est-ce que vous souhaitez que ça fasse partie de la réforme de la loi bioéthique ? Est-ce que vous savez si c'est déjà dans le texte ou si c'est encore en projet ?
En fait, c'est aussi... Donc, déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas de projet actuellement. Il y a eu un rapport d'information sur la loi bioéthique, dont le rédacteur était M. Touraine, et qui met en avant justement l'accès aux origines. Dans son rapport, il propose cette solution. Et on se rend compte actuellement, par rapport notamment en 2011, que tous les voyants sautent au vert.
2011, c'était une précédente tentative
la précédente réforme.
De modifier la loi.
Tout à fait. Tous les voyants sautent au vert. Ça veut dire que les députés qu'on a pu rencontrer ont pris conscience, si vous voulez, qu'il faut changer cette situation.
Ah, vous sentez que la classe politique a évolué ?
Exactement.
Par rapport à il y a 8 ans.
Et d'autres organismes aussi démontrent que les feux sont au vert. Je peux vous citer le rapport de la Commission consultative nationale d'éthique, qui aussi promeut l'accès aux origines. En fait, je pense qu'on s'est rendu compte que l'anonymat n'a plus de sens. il a plus de sens pour plusieurs raisons. Tout d'abord, juridiquement, il faut savoir qu'il y a deux recours qui sont devant la CEDH, qui mettent en avant le non-respect de la loi française par les traités européens, pour des raisons technologiques aussi.
Attendez, pourquoi ? Parce qu'en Europe, il y a une règle qui veut que l'anonymat soit levé.
Alors, pour rentrer un peu plus en détail, en fait, vous avez la Convention européenne des droits de l'homme, notamment son article 8, qui protège la vie privée. Et avec la jurisprudence qui a été dictée par la Cour européenne des droits de l'homme, elle reconnaît un accès aux origines personnelles. Et donc, c'est sur ces arguments que Madame Carvalho-Lezen et moi-même, nous sommes appuyés pour faire ce recours. Et d'ailleurs, il passera devant la Cour dans quelques mois. Mmh. Mais pour ajouter ensuite à l'argument juridique, vous avez l'argument que j'appellerais technologique, qui sont tout simplement les tests ADN réalisés à l'étranger, mais qui permettent
C'est interdit en France.
Exactement, de retrouver des donneurs ou bien des personnes issus du même don, des demi-frères et sœurs génétiques.
Mais vous donnez l'impression que maintenant tout le monde est d'accord, vous n'avez pas peur quand même que ça effraie les donneurs et donc qu'il y ait moins de dons, que des gens se disent « Moi, j'ai pas envie dans 20 ans que quelqu'un sonne à ma porte et me dise « Bonjour, je suis ton fils ou ta fille ».
Je vous remercie de poser cette question parce que c'est vrai que c'est une inquiétude et une crainte assez récurrente en fait. Déjà, on va parler d'un argument comptable, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça se produit jamais comme ça. Tout d'abord, la loi protège la filiation. Moi, même si, par exemple, imaginons je cherchais un père, ce qui n'est pas mon cas, je ne pourrais pas. D'accord ? Pourquoi ? Parce que la loi, prévoit une présomption irréfragable. Donc, je ne pourrais, tout simplement jamais revenir dessus. Et ensuite, si on regarde un peu ce qui se passe au niveau européen, notamment en termes de nombre de dons, on se rend compte, par exemple, que la Suède, ou même un peu plus internationale, l'Australie, ont pu avoir une première baisse de dons la première année, et ensuite ont dépassé le niveau initial.
C'est reparti. Une fois qu'ils ont changé la loi, qu'ils ont enlevé l'anonymat, les dons ont légèrement baissé, et après c'est reparti.
Et je peux même ajouter aussi la Finlande et le Royaume-Uni, pour lesquels le nombre de dons a augmenté de manière exponentielle,
Mais attendez, pour tous ces exemples, est-ce que ça se passe comme en France ? Est-ce que c'est gratuit ou est-ce que c'est payant ? Parce que ce critère-là peut jouer aussi, quoi. Si le don de sperme est payant,
Tout à fait. Non, ça va être en majorité gratuit ou ça va être, une indemnisation extrêmement faible. Très faible. Ce qui est important, c'est qu'on se rend compte qu'il y a un changement du profil de donneur. Et c'est sur ce point que je veux appuyer, c'est qu'il y a un changement du profil de donneur. C'est plus les mêmes. Moi, j'en rencontre aussi des parents qui ne veulent plus de cette technique, Nous, ce que veulent les donneurs, c'est un don en réalité responsable qui va jusqu'au bout. Et dans la tribune et dans notre association, nous avons des donneurs qui ont donné dans le cadre de l'anonymat, qui nous disent, écoutez, on se rend compte que les personnes qui sont issues de notre don, parfois, aimeraient en savoir plus. Et donc, nous, on est aussi pour l'accès aux origines.
Je peux vous poser une question personnelle ?
Allez-y.
Vous l'avez retrouvé, votre père biologique ?
Alors, non. Je ne l'ai pas encore retrouvé. Peut-être que je le rencontrerai jamais, peut-être que je le retrouverai. Ce que j'ai retrouvé, par contre, ce sont des demi-frères génétiques. J'ai retrouvé une demi-sœur et un demi-frère, avec, ces tests ADN.
Ah oui ?
Ouais, ça s'est passé.
Vous les avez retrouvés juste pour le moment où vous avez leur nom ou vous les avez vus ?
Non, je les ai rencontrés, ai rencontrés physiquement. J'avais fait ces tests ADN. Et donc ensuite, ma demi-sœur génétique a réalisé également ce test ADN. Nous avons matché. Elle m'a envoyé un petit message. Et commencé de là une conversation, si vous voulez. Donc on a échangé et j'ai pu la rencontrer. Il se trouvait qu'également, elle avait un frère, avec lequel elle a grandi, que j'ai également rencontré. Et ce qui est fou, c'est la ressemblance physique avec ce demi-frère. Ouais, exactement. Ouais.
Merci beaucoup Clément Rossial, vice-président de PMA Anonyme, donc à l'origine de cette tribune publiée dans le journal Le Monde. Ah, vous me présentez un livre, c'est quoi
ce livre ? Tout à fait. Juste pour finir, il y a peu de temps, nous avons sorti un livre qui s'appelle « Je suis l'une d'entre elles », qui est le premier livre de recueil de l'ensemble de témoignages de personnes issues d'un don, de donneurs et également de parents.
Merci, « Je suis l'une d'entre elles », c'est le titre du livre, c'est ça ?
Exactement, aux éditions L'Harmattan.
Merci Clément Rossial.